BFM Bourse, le club de la bourse.
Eh oui, parce qu'en plus, on a tout le monde sur le pont. Arnaud Morel, premier par AM, bonjour.
Bonsoir Antoine.
Merci d'être avec nous ce soir. Et Mathias Desmarais, Dodo BHF, bonjour.
Bonsoir.
Alors, ce marché-là, bon, qui globalement se refait une santé, on avait quand même un sentiment salement négatif en début de semaine. Et vraiment l'impression qu'on allait repartir à la cave. Et puis, les supports ont tenu. On sent quand même que les taux vont être vraiment le catalyseur de tout, hein, ces prochains mois, ces prochaines semaines, que ce sera peut-être ça, de ça que dépendra l'avenir de la géopolitique américaine. On sent que 4,5% sur le 10 ans, ça a toujours piqué Donald Trump pour prendre des décisions. Est-ce que, parce que malgré tout ça, on a quand même des grandes banques centrales qui sont un petit peu paralysées par rapport à ce qu'elles doivent faire. Est-ce que on est dans cette sorte de veillée d'armes permanente là pour les semaines à venir?
Bon, déjà, il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous l'avez dit, sur le détroit d'Hormuz, et est-ce que la situation au Moyen-Orient va perdurer. Donc il y a quand même un petit choc inflationniste entre le pétrole, l'inflation qu'on voit, les banques centrales, notamment la BCE, qui a quand même indiqué qu'elle avait pris exemple de son erreur, peut-être il y a deux ans, d'une remontée trop violente des taux d'intérêt. Après, donc il y a pas mal d'incertitudes aussi sur l'environnement économique, ça va peser sur l'économie. Maintenant, à très court terme, il faut dire que la saison de résultats à laquelle on assiste aujourd'hui est quand même plutôt pas si mauvaise que ça. Alors, elle est meilleure aux États-Unis parce regardez, depuis un mois et demi, le différentiel de performance entre les indices européens et américains, c'est quand même le jour et la nuit. Je crois qu'on est sur un spread plus élevé depuis 5 ans en termes de différentiel. Mais il y a peut-être effectivement un petit côté veillée d'armes avec énormément d'incertitudes, en tout cas de nuages qui s'amoncellent au niveau de l'économie européenne qui sera forcément plus impacté par l'environnement géopolitique que l'économie américaine.
Ouais, c'est vrai qu'on a, en plus, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis et toujours cette hyper concentration. Alors avec des résultats très très vraiment convaincants de la part de la high-tech américaine.
Hein. Tout à fait.
C'est évident. Est-ce que je ne sais pas, par exemple, quand on regarde performance majuscule des semi-conducteurs en Europe, est-ce que ça pourrait pas ruisseler un petit peu par là pour nous aussi? Du coup,
alors ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais la performance, en tout cas, de la tech européenne et des semi-conducteurs est vraiment porteuse. Après, vous avez aussi la sous-performance des acteurs qui sont mis, dans le panier des potentiels perdants d'intelligence artificielle, notamment la division software, entre autres. Hein, et donc ça a été un peu trop tôt pour ruisseler. L'événement qui pourrait arriver, je pense, au niveau européen, c'est enfin si on commençait à avoir des vrais effets du plan de relance annoncé Allemagne, qui pour le coup tarde vraiment à se matérialiser, en tout cas dans les carnets de commandes ou même dans les faits.
C'est étonnant, parce que quand il y a eu vraiment ces annonces en matière d'initiative, d'investissement dans l'infrastructure, la défense aussi, ça on n'en parle pas, il y a eu un vrai influx positif sur les marchés, puis une sorte de longue pause là maintenant, dont on aimerait bien qu'elle se termine et que ça aboutisse à quelque chose. Arnaud Morel, vous sentez aussi ce marché toujours un petit peu congestionné là en ce moment, malgré des performances qui restent quand même qui restent quand même intéressantes. On n'est pas si mal. Hein.
Marché à deux vitesses. Enfin, vous avez les valeurs technologiques avec des bénéfices, des chiffres d'affaires, de la visibilité quand on a un conflit au Moyen-Orient et donc moins de visibilité, un détroit d'Hormuz qui cap et handicape cette zone économique européenne. Et les poids lourds, notamment de la consommation en Europe, qui sont aujourd'hui pris en étau avec la remontée des matières premières et les coûts du fret, ce qui est quand même handicapant à ce stade.
Ouais, effectivement. Et Fixing pour le CAC 40. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plus 0,87% en clôture, plus 0,93% là à l'instant. 8082 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. On va essayer de voir si les volumes sont stabilisés, les volumes d'échange qu'on n'attendait pas très très importants de toute manière. On est à 1,5 milliard pour le moment. Non, il va falloir une dernière vague pour clôturer le fixing. Donc on les aura dans quelques minutes, peu importe. Mais donc plus 0,93% pour le CAC 40 qui termine cette séance de jour férié mais non chômé à 8082. Bon, on a dressé un petit peu le climat de marché. Maintenant, on va regarder les différents secteurs. Et c'est vrai qu'on avait une grosse actualité ce matin du côté de la Bourse de Londres avec les résultats de Burberry. Alors, Burberry, qui revient au profit. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'en termes d'hommes malades du secteur du luxe, il y a plusieurs marques qui sont quand même en difficulté, qui sont attendues en retournement via leur réseau de distribution, aussi bien que du point de vue de leurs créateurs. C'est Burberry, c'est un peu Gucci aussi chez nous avec Kering. Et Burberry, ben voilà, malgré un retour au profit, le titre termine en forte baisse à la Bourse de Londres, moins 6%. Du côté du luxe français, on s'en sort pas si mal, parce qu'on a Kering qui gagne 1,56% et on a LVMH qui prend 1,9% à 460,85 euros pour le fixing. Malgré tout, voilà, on a une bonne nouvelle dans le secteur du luxe qui est sanctionné par une baisse. C'est vrai que les prévisions étaient quand même très 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 prudentes de la part de Burberry. Est-ce que finalement on n'a pas un secteur du luxe à deux vitesses qui est en train de se constituer entre, bon, ceux qui ont beaucoup de retard et sur lesquels on s'est fait beaucoup d'inquiétudes, et Burberry en fait partie, Gucci aussi, et puis les grosses valeurs statutaires qui s'accommoderont toujours de l'instabilité du moment, comme Hermès ou LVMH. Mathias Desmarais, votre sentiment sur le luxe et sur Burberry?
Alors, le luxe, on va dire, on est plutôt neutre. Il y a eu une année 2025 qui était très compliquée. Là, les bases de comparaison sont quand même un peu plus favorables. Ouais. Effectivement, les chiffres de Burberry étaient plutôt bons sur la partie retail, notamment sur la Chine et les États-Unis, qui étaient en croissance d'un peu plus de 10%. Et ça, c'est tiré, je pense, par deux éléments. Donc, les piliers du groupe, à savoir les écharpes et tout ce qui est vêtements outdoor, on va dire, qui marchaient bien. Et aussi, une nouvelle tendance qu'on a pu voir aussi avec Coach, aux États-Unis, c'est-à-dire plutôt, on va dire, le soft luxury, le lancement des accessoires. Voilà, le lancement des accessoires. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, pendant la conférence téléphonique, le management de Burberry s'est voulu prudent comme sur l'environnement économique. Preuve qu'il y a, voilà, il y a un début de recovery, un peu comme dans d'autres marques, mais qui n'est pas encore complètement acté selon nous. Et surtout, ce que je retiendrai de cette publication, finalement, c'est le panier moyen qui a tendance à continuer à baisser. Et effectivement, il y a des problématiques de pricing power dans cette industrie qui, comme vous le savez, après le Covid, a fortement tiré les prix. Donc là, j'aurais tendance à être un peu prudent, parce qu'à un moment, si votre trafic dans les magasins ne repart pas à la hausse, votre panier moyen est sous pression, je pense que les attentes des investisseurs et du consensus de manière générale sont peut-être un peu trop optimistes sur 2026, 2027. C'est pour ça qu'on a une certaine prudence, même si effectivement la valorisation du secteur aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, on est à 15 ou 20% de décote par rapport à début 2020, c'est-à-dire avant Covid, pour avoir une situation un peu plus normative. Voilà. Est-ce que c'est un peu trop tôt pour le coup pour nous? Oui. Après, je pense qu'il y a des acteurs bien installés, leaders mondiaux comme LVMH, qui, à mon avis, sont vraiment peut-être l'acteur aujourd'hui à jouer par le portefeuille diversifié. Le renouveau créatif sur pas mal de marques, Dior, Céline, Fendi, Givenchy, et aussi une valorisation. Il faut savoir que LVMH aujourd'hui se paye 18 fois les résultats. Ça fait 4 ou 5 ans que c'est plutôt aux alentours de 25. Donc là, il y a peut-être une décote un peu plus marquée, et c'est aujourd'hui le moins cher du secteur.
Bah, c'est presque de la value, si on regarde bien. C'est
toute
un peu comme Microsoft dans la tech.
Proportion gardée, oui, voilà. C'est un peu ça.
C'est ça. Vous parliez de Coach tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que le luxe, en fait, pourrait être un petit peu tiré vers le haut, parce qu'on voit qu'il y a aussi des changements sociologiques dans les clientèles du luxe, que ce soit le luxe exceptionnel jusqu'au luxe accessible. Vous parliez de Coach, c'est très intéressant, parce que quand on regarde les performances boursières des Ralph Lauren, de Tapestry, la maison mère de Coach, etc., ben on voit des performances qui sont quand même assez intéressantes au sein du secteur.
C'est très intéressant, pour le coup, c'est plus du trading down, c'est-à-dire du luxe assez accessible. Et aujourd'hui, je pense que la clientèle ultra riche qui achète du très très haut de gamme est toujours là. Je pense que pour le coup, c'est plutôt la classe moyenne qui, pendant un moment, s'était allée vers le luxe, est en train de revenir en arrière. Et la bonne nouvelle de Coach, on dirait, c'est sur sa nouvelle gamme d'accessoires, notamment les sacs à main. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on aime toujours les sacs à main. C'est ça qui marche aujourd'hui très fort.
C'est quand même la meilleure des nouvelles pour l'ensemble du secteur, on est d'accord. Arnaud Morel, le secteur du luxe, alors, ça vous inspire?
Oui, c'est ce qui était dit précédemment. Nous, on aime beaucoup LVMH pour la valorisation aujourd'hui.
Ouais, la value,
La croissance organique qui est revenue quand même en l'état, certes 1%, mais depuis 4 trimestres, c'est quand même ce qu'on achète aujourd'hui sur LVMH.
Et puis aussi sur des zones géographiques qui étaient réputées compliquées, on a pu voir sur les dernières indications que ça commençait à aller quand même
et
mieux.
Le rue de Grosse Burberry est hyper intéressant pour LVMH, en disant que le ressenti sur le décalage de un mois est quand même assez bon. Donc ça, c'est un point positif, ce qui explique la surperformance, on va dire, d'LVMH. LVMH, depuis le début du conflit, et le luxe de manière générale, mais LVMH, c'est moins 18, ça n'a pas rebondi depuis. Puisqu'aujourd'hui, on a vraiment une casse qui est matérialisée, une pression qui est mise à travers l'arrêt du secteur du voyage. si on a réouverture, et c'est aujourd'hui le consensus, maintenant c'est de savoir quand, du détroit d'Ormuz, on peut s'attendre quand même à une recovery des acteurs de la consommation et en premier lieu des acteurs du luxe. Et les mieux positionnés pour cela, c'est LVMH, nous semble-t-il.
Bon, bah, LVMH fait l'unanimité, en tout cas là pour le moment. C'est vrai qu'à tout seigneur, tout honneur. Grosse pondération dans le CAC 40. Et ça y est, chez les volumes du CAC 40, bah, c'est pas trop mal pour un jour férié, hein, 2,9 milliards. C'est vrai que ces temps-ci, on est plus habitué à 3,5 milliards, 4 milliards, mais pour un jour férié, c'est pas trop mal. Donc, LVMH, dont on parlait, plus 1,9%, 460,85 €. Kering, plus 1,56 € à 244,35 €. Et Burberry, qui était un peu le point de départ de cette réflexion autour du secteur du luxe. Donc, un retour au profit, des performances financières qui étaient meilleures qu'attendues, mais alors des prévisions toujours extrêmement prudentes. Et le titre a terminé en baisse à la Bourse de Londres de 6,3%. Quand même pas de pitié pour les prévisions floues. Alors, autre secteur en grosse difficulté en ce moment et qui pose question, c'est l'automobile. On a vraiment des nouvelles tous azimuts là en ce moment. Rien qu'aujourd'hui, regardez quand même, un nouveau patron pour BMW qui essaie de se trouver un second souffle. BMW, bon, qui est... Moi, je me rappelle quand je regardais le secteur de automobile et que je faisais des essais auto, BMW, c'était toujours une marge à deux chiffres. Bon, là, voilà, ils courent après la marge. Enfin, c'est une catastrophe. Porsche, ils perdent de l'argent à construire des voitures en ce moment. Bon, c'est vraiment très compliqué. BMW essaie donc de se trouver un second souffle. On a une problématique avec les constructeurs européens, le lobby des constructeurs européens qui met en garde. Non seulement on a des problèmes depuis des mois, mais en plus, on a le détroit d'Ormuz. Alors là, pour certains produits qui sont essentiels à la fabrication d'une voiture, c'est une catastrophe. Et en plus, on risque d'avoir des problèmes avec la Chine, qui est soumise à des restrictions d'exportation de certains composants. Donc là, on risque de se retrouver avec des problèmes d'approvisionnement un peu partout. Là-dessus, ce matin, on apprend que Honda, pour la première fois depuis que c'est une société cotée en bourse, Honda signe des pertes. Alors là, c'est vrai que c'est un constructeur dont on parle assez peu, qui est vraiment très sectorisé sur l'Asie, etc., qu'on connaît bien en France. Voilà, ils signent des pertes, et dans leur histoire, c'est une première. Bon, on l'attend toujours, le pivot, le second souffle du secteur automobile, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est pas encore maintenant.
Non, tout à fait. Nous, on reste vraiment négatif sur le secteur automobile. Parce que, bah, il y a tous les éléments géopolitiques et économiques qui font que la demande, en fait, est assez peu lisible aujourd'hui. Ça a été illustré par les résultats de Stellantis, de Volkswagen également. Il y a après plusieurs éléments. Bah, il y a les tarifs douaniers, quand même, parce que Trump en a remis une petite couche très récemment.
On s'en souvient assez récemment.
Voilà, il y a une quinzaine de jours. Il y a les pressions tarifaires, parce qu'il y a comme une guerre des prix avec une concurrence qui est accrue. Il y a la dilution aussi sur les véhicules électriques qui arrivent. Donc, tous ces éléments font qu'il y a quand même, je pense, pas mal d'incertitudes. Parallèlement, il y a la base de coûts qui est soumise à des pressions inflationnistes assez fortes. Et même BMW l'avait illustré en plus. Vous avez la Chine, qui reste un marché très, très fortement dégradé, et donc qui va impacter quand même beaucoup de constructeurs. Peut-être à l'exception, pour le coup, qui est peut-être la seule faveur qu'on a envie de jouer, qui serait Renault, parce qu'il y a beaucoup moins d'exposition à la Chine aux tarifs douaniers. Et effectivement, il y a toute une relance commercial et un carnet de commandes qui a été indiqué au premier trimestre.
Pas trop d'exposition sur le marché américain. En
exactement.
Plus, donc, ouais, ça c'est plus.
Voilà,
cool.
Et donc c'est peut-être la seule qui est un peu la plus entre guillemets isolée. Ouais. Voilà, avec une bonne maîtrise des coûts et surtout un plan produit et un mix produit qui va être beaucoup plus favorable.
Ah oui, vous pensez?
Un peu plus favorable, oui, puisqu'ils ont pas mal de nouveaux modèles qui ont été lancés, et ça se traduit aujourd'hui au niveau des ventes et du chiffre d'affaires du premier trimestre, qui était 7% au-dessus des attentes. Le carnet de commandes pour le deuxième trimestre était plutôt très bon. Alors, il y a tous les nuages économiques, mais en relatif, pensez celles qui s'en sortent le mieux dans le secteur.
Bah oui, c'est vrai que sur les constructeurs de flux, en tout cas, bon, ils font le job. Ouais, la seule autre exception qu'on pourrait signaler, c'est Ferrari, mais enfin, c'est un cas vraiment très très particulier.
Donc là, ça pique un peu sur les marges aussi.
Oui, oui.
Arnaud
Morel.
Un beau carnet de commandes, mais voilà, sur la dernière publication. Mais pour revenir sur le secteur automobile, pareil, on est négatif. C'est clairement aujourd'hui, vous avez des prises de parts de marché, en tout cas contre les acteurs européens. Là, on vient d'avoir l'annonce qu'il y a 8% de parts de marché. Aujourd'hui, c'est les constructeurs chinois. Ils ont doublé leur part de marché en 3 ans.
Ouais.
C'est 100% d'augmentation des ventes sur un an glissant en Europe.
Oui, bien sûr.
Colossal. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on le voit, c'est le défi, la concurrence qui est mise en place avec des prix, avec une technologie qui est bien prise en compte par la Chine. Et de facto, il y a des parts de marché qui sont prises. Et on reprend les constructeurs Stellantis, mais surtout Renault. 80% de sa part de marché, c'est en Europe.
Ouais.
Attention tout de même, il y a un levier opérationnel, et ça on l'a bien en tête, mais tout de même, attention à cette part de marché, surtout si demain, potentiellement, les constructeurs chinois vont pouvoir utiliser, comme vous avez des usines qui ne marchent pas bien en Europe, hein, des constructeurs européens, ils vont pouvoir construire leurs véhicules et possiblement échapper aux taxes, puisque les produits seront construits sur la zone européenne.
Alors, c'est super intéressant, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, c'était un peu une news fracassante quand même à propos de Stellantis, qui va donc fabriquer des voitures Leap Motors, donc, dont il a une petite part de capital. Non seulement des voitures Leap Motors qui vont être fabriquées dans une usine Stellantis en Espagne, mais également une voiture avec un badge Opel qui sera fabriquée dans cette usine et qui sera une Leap Motors rebadgée. Est-ce que Stellantis n'a pas là la bonne méthode pour dealer avec le problème chinois? C'est-à-dire, on prend un peu de leur capital, on construit leur voiture avec des ouvriers européens, avec les normes de construction européennes, et justement, c'est peut-être le début du commencement de la solution du problème.
Peut-être une vision peut-être court-termiste, on va dire, à ce moment-là, puisque c'est un peu se manger la queue, mais... Enfin, voilà, ça semble quand même difficile, hein, les parts de prise de les parts de participation de manière historique n'ont jamais été bénéfiques, hein, pour le groupe. On voit un petit peu, hormis le cas Nissan Renault, mais j'en vois pas beaucoup plus aujourd'hui entre les deals qui ont été faits entre la Chine et les constructeurs comme Volkswagen, hein, en général
la Chine est gagnante.
Ouais.
Oui, ils se lèvent pas pour rien, hein.
Exactement.
D'accord, mais il y avait cette idée de se dire, bon, la Chine d'une manière générale va nous manger d'une manière ou d'une autre avec son secteur automobile, mais si on pactise avec eux, et encore une fois, que la construction se fait en Europe, avec des normes européennes, avec des ouvriers européens, est-ce que finalement on n'a pas une sorte d'équilibre qui est en train de se former?
Je pense que ce sera un équilibre toujours très précaire avec un groupe chinois. Et à un moment, ça peut être effectivement à court terme une bonne solution. Après, je suis pas sûr que c'est dans le moyen terme, par rapport au redressement que doit opérer Stellantis, ce soit vraiment la feuille de route principale qu'il faille mettre en œuvre. Et on l'a vu sur l'état du premier trimestre. C'est vrai que Leap Motor a contribué pas mal au résultat. Si on regarde le sous-jacent, ça reste quand même assez difficile.
Voilà. Donc ça, c'est sûr. Et puis on a vu que les problèmes étaient loin d'être résolus du côté du marché américain. Et Stellantis, c'est un vrai souci, étant donné que c'est un groupe qui est sur deux continents.
Ça prendra beaucoup de temps avant de retourner un groupe de cette taille industrielle, surtout.
Bon, Stellantis qui gagne 3,3% en clôture à 6,70 €. Puis BMW, dont je vous parlais, qui vient de changer de patron. On en reparle dans le journal de 18h avec son portrait. Moins 4,8%. C'est pas une très bonne journée pour BM. 76,82 €. C'est vrai que le premium allemand... Alors, on se dit, c'est par là que ça va reprendre. Et voilà, on a une indication de plus que c'est toujours pas repris. Voilà.
Après, BMW est peut-être un peu mieux positionné que Mercedes. Avec un peu moins d'exposition en Chine, et puis surtout leur New York casque et le nouvel environnement stratégique du groupe avec le lancement de nouveaux modèles est un peu plus, peut-être un peu plus bénéfique à court terme.
Ok. On va passer à tout autre chose. Il y a De Richbourg qui étonne, hein. Le titre qui a terminé, c'était une des plus fortes hausses du SBF 100. La plus forte hausse, plus 6,3%, 10,49 €. Le titre prend 9% en une semaine, plus 54% depuis le début de l'année. Il y a eu un rachat très important là, ces derniers jours qui semble vraiment profiter au titre. Est-ce que De Richbourg n'est pas en train de changer un petit peu de dimension là, en ce moment, Mathias Desmarais?
Alors, l'acquisition de Shorts Recycling est pour le coup une très bonne acquisition, on va dire, à moyen terme pour le groupe. Hein. On a peu d'éléments chiffrés à ce stade, mais en tout cas, ça renforce De Richbourg sur l'Allemagne, l'Europe de l'Est. Il n'y a pas de problème de concurrence, il n'était pas là. Donc, ça le positionne vraiment comme un acteur majeur. Et on sait que c'est important dans tout ce qui est économie circulaire. Après, je pense qu'à court terme, en tout cas depuis le début de l'année, je pense que le groupe a surtout bénéficié de deux éléments. Un, l'évolution des prix des matières premières. Et deux, il y avait une forte dépendance à la production mondiale d'acier. Et pour le coup, les deux sont bien orientés. Donc, la sensibilité au prix des matières premières est positive pour De Richbourg. Donc ça, globalement, ils en avaient fait état d'ailleurs avec un bon début d'année. Donc, ces deux éléments-là sont positifs. Après, nous, on est plutôt neutre sur la valeur pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, après le rallye boursier, on se traite avec 11 ou 12% de primes sur la valorisation historique. Donc, ça commence à devenir un petit peu cher. Et puis, enfin, moi, j'avais une vraie interrogation, finalement, sur la prise de participation dans Elior qui avait été faite il y a quelques années. Est-ce que ça peut vraiment apporter au groupe?
C'est une problématique que j'avais notée. Et qu'il y a beaucoup d'analystes qui pensent que c'est plus un boulet au pied qu'autre chose. Parce qu'on est sur un secteur complètement différent, qui est soumis à des aléas absolument monstrueux. On a pu le voir entre Sodexo et Elior sur certains marchés et sur certaines zones géographiques. Est-ce que finalement, c'est pas une mauvaise opération qu'ils ont fait? Si on regarde, on refait le match, hein, je sais bien, mais...
Alors, le match n'est pas tout à fait terminé, parce qu'ils sont en train de restructurer, mais ouais. C'est vrai qu'au prix où ils l'ont acheté par rapport aux performances opérationnelles, est-ce que ça peut rapporter? J'ai du mal à voir vraiment les bénéfices de cette opération. Après, on connaît le secteur de la restauration collective, qui en plus, qui est quand même un peu disrupté par les changements d'habitude des consommateurs. Bien et sûr. C'est un secteur qui peut être aussi soumis à des pressions inflationnistes, pour lequel c'est toujours plus difficile de lutter, même si beaucoup de contrats sont indexés mécaniquement sur l'inflation. Il y a quand même un effet lag au bout d'un moment qui peut peser.
Arnaud Morel, premier parrain de Richebourg, ça...
Non, mais ce qu'on constate, et ça nous fait énormément plaisir, c'est que ça participe aujourd'hui à tous les matériaux de base et à la bonne performance. On parlait tout à l'heure avec Mathias d'ArcelorMittal. Aussi, c'est très intéressant. Donc, on voit cette mesure d'anti-dumping qui est faite en zone économique européenne à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est bien puisqu'on va doubler les droits de douane. Du coup, vous allez avoir plus de volume pour le recyclage de la ferraille, donc des anticipations qui sont aujourd'hui dans le cours de Richebourg. Donc ça, c'est des éléments notables. Et pour ArcelorMittal, qu'on aime tous beaucoup, c'est des bonnes nouvelles. Enfin, quelque chose qui se passe pour sécuriser, on va dire, notre industrie européenne.
Bon, plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous parliez d'ArcelorMittal. Encore faudrait-il que le prix du pétrole se calme, parce qu'on a l'impression qu'ArcelorMittal, c'est devenu la valeur à Paris qui est vraiment la plus réactive à la hausse des cours de l'énergie. À chaque fois que Total grimpe parce que les cours du brut montent, ArcelorMittal signe une performance calamiteuse.
Vous avez raison. Après, moi, je l'observerai plutôt dans un mouvement de marché. Quand le pétrole monte, le marché baisse. Valeur à fort bêta, je crois qu'ArcelorMittal, là, c'est 45% depuis le début de l'année.
Oui, oui.
Et elle est vraiment là sur... elle a du mal à passer la résistance des 55.
Ouais.
Donc ça, c'est quand elle va les passer ou pas.
Oui, des voilà. Aspects techniques.
Mais voilà, il y a ces points-là, et vous avez raison, Antoine, mais je pense que voilà, c'est plutôt le bêta dans un marché qui recherche de la sécurité avec une société comme Arcelor. Voilà, après, c'est mon observation.
Bon. Et on va parler un tout petit peu des satellites. Alors, peut-être de manière un petit peu plus générale, c'est vrai qu'on a eu des performances alors absolument étonnantes ces derniers jours, de la part d'SES notamment, qui avait publié ce résultat. Et le titre gagne encore 6% aujourd'hui, à 8,10 €. Ça gagne 28% en un mois, 45% depuis le début de l'année. Et puis Eutelsat, qui gagne 25% en un mois. C'est vrai que c'est un secteur... Alors, pour le coup, archi-volatile. Hein. Je regarde du jour au lendemain, on est en queue de peloton, en tête de peloton. Bon, c'est des valeurs très volatiles, et surtout Eutelsat, d'ailleurs. Malgré tout, est-ce que dans une optique de gestion avec une stratégie axée sur la souveraineté européenne, sur l'investissement en infrastructures, etc., on sait que les satellites vont être de plus en plus sollicités, est-ce que c'est pas une piste d'investissement à regarder, prudemment évidemment, parce qu'on n'aime pas forcément les sinusoïdes, mais commencer à regarder dès maintenant, en espérant justement que le vent d'investissement en termes d'infrastructures européennes commence à se faire sentir sur les marchés, quoi.
Alors, oui, les satellites, faut être assez accroché à son siège, parce que c'est vrai que la volatilité est très importante. Après, je pense que pour jouer la thématique de la souveraineté européenne, franchement, il y a peut-être un peu plus calme, on va dire, comme investissement sur un secteur qui est vraiment très, très volatile et il y a des bons côtés. On a vu les résultats qui étaient plutôt de bonne facture. Il y a des sous-jacents sur le marché de l'aviation, sur le marché du maritime, sur les services gouvernementaux qui sont bons. Donc, dans cette thématique de souveraineté. Après, je pense qu'il y a des éléments importants qui sont un peu différents pour les deux, je pense. SES, il y a une vraie problématique quand même de surcapacité avec les nouvelles constellations, que ce soit Starlink, OneWeb, Telesat, Kuiper, qui peuvent avoir un impact sur la profitabilité vraiment du groupe dans les prochaines années. Sur Eutelsat, on a une recapitalisation l'année dernière. pour le coup. Là, il y a deux enjeux. C'est le redressement de la rentabilité de OneWeb, qui est la constellation en fait sur orbite basse, qui peut être intéressante. Et je pense le deuxième élément aussi, c'est le plan d'investissement 2026-2030 qui va être très très important pour Eutelsat, donc il va quand même falloir surveiller un peu la structure financière, sachant que dans les deux groupes, il y a une thématique commune qui est en fait toute la partie diffusion vidéo, qui pour le coup est structurellement en baisse. Chez SES, c'est à peu près 40% de l'activité, et ces deux groupes qui vont pas gagner d'argent en fait avant 2027, donc ils vont rester sur des pertes. Donc il faut que tout se passe bien vraiment pour que tout aille bien. Et alors, pour le coup, je me pose une question parce que j'ai pas réponse. Est-ce que la fameuse IPO de SpaceX est pas quelque chose qui tire un peu ces groupes en disant, si je veux jouer l'espace aujourd'hui,
il y a pas 36 solutions.
Il y a deux trois solutions américaines avec SpaceX qui arrivent, mais c'est vrai qu'en Europe il y a plutôt les satellites.
C'est peut-être
un effet de mode jusqu'au mi-juin. A priori, quand serait coté SpaceX.
Peut-être regarder un petit peu Leonardo aussi, qui est souvent dans des consortiums, qui est coté en Italie, évidemment. Arnaud Morel, un avis sur les satellites, ou plus généralement sur l'investissement dans l'infrastructure, peut-être ?
Sur les satellites, nous, bon, on n'est pas investi dessus. Après, c'est petit, c'est un secteur intensif en capital, et en plus, il y a eu une augmentation de capital il n'y a pas longtemps. On en parlait tout à l'heure aussi. Donc voilà, sur ce sujet-là, sur la partie infrastructure, nous on aime beaucoup Prysmian et Nexans. Aujourd'hui, sur la partie électrification, c'est des valeurs qu'on porte depuis longtemps chez Promépar. Voilà, c'est des sujets, les publications sont bonnes. Je suis désolé, je te pique encore l'idée, mais voilà, c'était
Mais on partage les bonnes idées.
On échangeait avant, mais voilà, c'est l'IPO potentiel aussi aux États-Unis. Et donc ça redonne. Et sur la publication, ça n'a pas été neutre, hein. Le -6+6 qu'on se disait tout à l'heure, ça se justifie comme ça. Donc, c'est une très bonne communication de la part des managements. L'électrification, pour le coup, est très, très importante en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et pour le coup, Prysmian, il est aussi un peu présent. Donc, c'est très bien.
Oui, et puis c'est vrai que ces derniers temps, on se fait un petit peu, on prend un biais psychologique quand on parle du photonique qui remplace les câbles en cuivre. Ouais, on transmet l'énergie et l'information par la lumière. Oui, les data centers, etc. Mais enfin, c'est une technologie qui reste quand même extrêmement expérimentale, qui se développe vite, mais qui est expérimentale pour le moment. Et puis, on a tendance à oublier qu'on a toute l'industrie à électrifier. Donc, ça reste des relais de croissance extraordinaires.
Et les champions sont européens.
Oui. Et les champions sont européens. Donc ça fait du bien. Arnaud Morel, Promépar AM, Mathias Desmarais, Dodo BHF, merci infiniment.
Merci
d'avoir refait la séance avec nous.